ce soir, on s'embarque vers les îles britanniques, côté punk, mais joyeux. Alors j'espère ranimer de bons souvenirs chez pas mal d'entre vous, peut-être pas les plus jeunes. Mais il y aura des choses rares aussi, ça intéressera tout le monde. Mais enfin, je pense que tout le monde, ou presque, connaît ça. Franchement, qui ne connaît pas ça? Tout le monde, ou presque, a entendu au moins une fois dans sa vie ce « wouhou » lymphatique entonné par Damon Albarn avec le groupe Blur. Mais tout le monde ne sait peut-être pas que cette chanson, enfin faudrait plutôt dire embryon de chanson et carrément anti-chanson, s'appelle « Song 2 », chanson 2. Alors, à mon avis, Damon Albarn a dû écrire les paroles, alors, je sais pas, au dos d'un ticket de supermarché à côté de son bol de cornflakes le matin. Voilà, je me suis fait examiner la tête par un jumbo jet, c'était pas évident, mais il y a rien qui l'est, bon. Ou encore, quand je me sens heavy metal et que j'ai des fourmis dans les jambes, je me couche tranquille. Voilà, c'est à peu près tout. Alors, il faut rappeler l'année de parution, 1997. Alors, à peu près 2 ans avant cette année a culminé au Royaume-Uni, un mouvement que la presse spécialisée, et oui, on s'est reculé, elle avait encore de l'influence, a appelé Britpop. Alors, deux mots, bref, hein, de rappel historique. Au début des années 90, le rock britannique n'est pas très en forme. Oui, il y a de bons disques, il y a de bons groupes, notamment, je sais pas, Primal Scream, James ou Ride, mais sur le plan mondial, l'impact reste assez limité. Il y a qu'un seul groupe originaire des îles britanniques qui, dans ces années-là, remplit les stades, c'est qui? Ben, c'est U2. Et encore, il est irlandais. Alors vous imaginez, c'est une double humiliation pour les Britanniques. Et il y a une nouvelle génération à ce moment-là qui est née, mettons, à peu près autour de la fin des années 60 et au début des années 70, qui arrive, donc au début de la décennie 90, avec une ambition nouvelle, créer un rock britannique massivement populaire. Alors ces jeunes groupes, ils veulent, c'est clair, hein, ils veulent fabriquer des chansons capables de toucher tous les publics et pas que les critiques de rock binoclars qui sentent, il faut le dire souvent, un peu le renfermer. Alors les journalistes ne s'y trompent pas en lançant justement cette notion de Britpop. Pop, c'est pas seulement une définition floue maniée par des esthètes du rock, ça veut dire en premier lieu populaire, oui populaire comme Michael Jackson ou Madonna. Il y a des groupes comme Suede, hein, au sud de Londres, qui raniment la flamme d'un rock flamboyant avec des mélodies romantiques, hein, très inspirées par la période dite glam rock de David Bowie, mais c'est évidemment grâce au succès de deux groupes de portée mondiale, Blur et Oasis, que le rock britannique va, au milieu des années 90, avoir à nouveau un impact mondial. Ce qui est assez paradoxal, en même temps, c'est que l'un et l'autre revendiquent fortement une identité purement britannique. Alors, cela dit, c'est pas la même. Vous prenez Oasis, bah, comme autrefois les Beatles, eux, ils viennent du nord ouvrier industriel, socialement sinistré, et ils revendiquent la fierté pour ceux qu'une partie de la société britannique, celle qui justement réussit au sud, considère comme désormais socialement inutile. Et quant à Blur, bah justement, le groupe vient de ce sud, hein, de cette Angleterre plus verte, plus éduquée et en majorité prospère. Puisque Damon Albarn et ses camarades sont pas des fils de travailleurs précaires livrés à eux-mêmes, hein, comme l'étaient les frères Noel et Liam Gallagher. Eux, ils ont grandi dans des milieux cultivés, ils ont étudié à l'université, l'art, le théâtre ou les langues étrangères. Et ces musiciens donc de Blur, ils ont d'abord cherché à renouer avec un passé prestigieux du rock britannique, encore pas si ancien à l'époque. Hein. Il s'inspire des Kinks, de Ray Davies, en passant par des groupes comme Madness, ou d'autres, peut-être moins connus du grand public, comme Ecstasy. Et leurs chansons sont, en tout cas à leur début, de petits tableaux pleins d'ironie, souvent méchantes d'ailleurs, sur la petite vie des banlieusards anglais. Alors la chanson Stereotypes, par exemple, évoque de manière un peu narquoise les couples échangistes du samedi soir. Seulement en 1997, quand paraît le cinquième album de Blur, eh bien le paysage a déjà changé. Le travailliste Tony Blair arrive au pouvoir, alors je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais en fait c'est concomitant avec le déclin de la Britpop. C'est l'année où surtout, le groupe Radiohead, hein, qui a strictement rien à voir avec ce mouvement, commence à s'imposer durablement. Alors je reviens à cette Song 2 de Damon Albarn et Blur. En fait, ils ont déjà senti ce changement et ils ont déjà pensé à se renouveler. En fait, la source de cette chanson devenue célèbre, il faut plutôt la chercher dans le rock indépendant américain et pas du tout auprès des anciens modèles britanniques. C'est vrai, à ce moment-là, Blur adopte les bruits et saturations, hein, en l'occurrence un procédé qui déforme le son de la basse, hein, dans Song 2, en s'inspirant directement du groupe new-yorkais Sonic Youth et puis d'un autre californien, Pavement. C'est un coup de génie d'ailleurs pour Damon Albarn qui a avoué que pourtant il avait simplement cherché à faire une parodie de chansons grunge. Alors Song 2 a été d'abord utilisé dans un jeu vidéo de football, puis dans diverses publicités et bandes originales de films, et vous le savez pas, depuis le début des années 2000, on entend ce fameux « Wouhou » hein, dans la sono des stades américains à chaque fois qu'une équipe de football ou de hockey marque un but, ou qu'une équipe de baseball réussit, je sais pas, un double play par exemple. Alors vous imaginez la source de royalties que ça peut représenter pour les musiciens de Blur qui ont signé cette chanson collectivement. Alors ce soir, on va comme ça naviguer entre deux grandes périodes du rock britannique, celle de la Britpop et puis celle du punk rock, plus spécifiquement anglais, de la grande époque, hein, 77, 78, 79, voilà. Vous l'entendrez, l'inspiration est souvent proche et les connexions nombreuses. Tout de suite, on retrouve un des meilleurs groupes de rock anglais du milieu des années 90. Enfin, selon moi, il a été formé par un fils de professeur de la région d'Oxford qui n'avait que 18 ans en 1994. Caught by the Fuzz, c'est la voix de Guess Coombs avec son trio Supergrass.
I was only 15. If only my brother. There's great danger,
danger
for the loneliest stranger in town. No silver bullets,
bullets,
not to split the scene. Next week we'll solve your problems. But now, three fingers holding a line. The milk bottles stand empty. Look up justice,
justice.
Bobbins, quick I say.
Vertigo Trip sur France Inter.
Connection sur Inter, un titre du groupe londonien Elastica, aux trois quarts féminins, sorti en 1995. Un style étonnamment proche de celui d'un autre groupe londonien, Wire, formé celui-là une vingtaine d'années auparavant et qui, contrairement à Elastica, eh bien, survit encore aujourd'hui. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous ai passé juste avant Ex-Lion Tamer, c'est un des titres les plus diffusés de l'album Pink Flag, le premier qui a été publié en 77 par Wire, un disque de chansons froides la plupart très courte, qui était très en avance sur son temps. Et Wire a eu une influence très importante sur quantité de groupes de l'après-punk jusqu'à Elastica. Elastica qui a eu son heure de gloire, hein, qui a été un groupe marqué par la personnalité de sa chanteuse et guitariste Justin Freshman. C'est d'ailleurs elle aussi qui composait les chansons. Alors Justin était une étudiante en architecture, elle-même fille d'un architecte assez connu à Londres, de grands bâtiments civils, un juif hongrois qui était rescapé des camps de la mort. Elle avait démarré sa carrière de musicienne comme guitariste dans le groupe Suede, un groupe dont le chanteur Brett Anderson était son fiancé de l'époque. Seulement, assez vite, Justin Freshman l'a plaqué pour le chanteur de Blur, Damon Albarn, avec qui elle est restée, je crois, jusqu'en 1997. En 1995, Elastica a connu au Royaume-Uni un succès, mais fulgurant. Son premier album s'est vendu à 1 million d'exemplaires, ça laisse songeur, surtout les gens de l'industrie du disque aujourd'hui. Mais comme pas mal d'autres groupes de la Britpop, Elastica n'a pas survécu à la fin de cette mode. Alors il paraît aussi que les drogues ont joué leur rôle dans le délitement du groupe, histoire malheureusement banale. Une autre explication, enfin complémentaire en tout cas, c'est que pour Justin Freshman, peut-être que la musique n'était pas une nécessité vitale. Il est vrai qu'elle avait d'autres cordes à son arc. Au début des années 2000, par exemple, elle a présenté une série d'émissions consacrées à l'architecture sur une chaîne de la BBC. Et puis aujourd'hui, elle vit aux États-Unis, dans le Colorado, où elle se consacre à la peinture. À présent, un autre groupe de la période historique punk anglaise, dont on peut dire qu'il est le premier à avoir introduit de la mélodie, de la tendresse et même de l'autodérision dans ce courant punk qu'il avait contribué à inventer, en tout cas au Royaume-Uni. Alors les Buzzcocks, c'est eux, ils venaient d'une banlieue de Manchester où tout simplement ils ont été les premiers et même pendant quelques mois les seuls punks de la ville. En effet, c'est le premier chanteur des Buzzcocks, Howard Devoto, qui a formé après le groupe Magazine, un groupe absolument exceptionnel, qui a d'ailleurs permis à Joy Division d'éclore par la suite. Donc Howard Devoto et le guitariste Pete Shelley, bientôt l'unique chanteur du groupe, qui ont fait venir en juin 1976, c'était tôt, les Sex Pistols à Manchester. Et parmi les membres du très maigre public présent ce soir-là, se trouvaient qui ? Eh bien, les futurs membres de Joy Division, ainsi que Morrissey, qui allait bientôt fonder les Smiths. Les Buzzcocks, alors, je le souligne, c'est un témoignage personnel, n'ont pas été tout de suite compris en France. Je me rappelle un concert au Palace, c'était en 79, où une bande de crétins les avait hués du début à la fin, au point que le concert a été écourté, parce que ce style de punk rock n'était pas assez méchant et urbain à leur goût. Fast Cars, les Buzzcocks en 78, un extrait de leur premier album Another Music in a Different Kitchen. Je déteste les voitures rapides, elles sont bien trop dangereuses. Grâce à elles, vous aurez peut-être des admirateurs, mais vous n'aurez pas d'amis. Mes paroles punk préférées de la période.
Round and round.
Rigotrip sur France Inter.
Yeah.
Generation sur Inter, c'était la voix de Billy Broad alias Billy Idol au sein du groupe Generation X en 1977. Un groupe qu'il avait formé un an avant à Londres avec le guitariste Tony James. Your Generation don't mean a thing to me. Votre génération veut rien dire pour moi. Bien sûr, une provocation envers les prestigieux aînés qui les écrasaient. Les Who, bien sûr, qui avaient chanté le fameux My Generation, mais aussi les Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, enfin, toute la bande, quoi. Enfin, quand j'y repense, ce qu'on leur reprochait, je m'inclus parce que j'avais cet âge-là et j'étais sur cette longueur d'onde, c'était d'avoir déjà tout inventé et de pas nous avoir laissé notre place. Alors on était prêts à toutes les provocations, y compris, je l'admets, les plus stupides, pour prendre, j'allais dire, usurper leur place, ce qu'on n'a réussi qu'à moitié. Bon, Billy Idol avait été une sorte de star à Londres avant même d'enregistrer des disques. Il appartenait à une bande qui venait de Bromley, c'est une banlieue située dans le sud du Grand Londres. Et cette bande se faisait appeler le Bromley Contingent, hein, le contingent de Bromley. Alors lui, Billy Idol, il avait les cheveux blonds, ras, oxygénés, enfin peroxydés, comme on dit. Et puis il y avait aussi dans cette bande la future chanteuse Susie, hein, fondatrice de Susie and the Banshees. Alors tout ce petit monde traînait à Londres sur King's Road, dans le quartier de Chelsea. C'est là qu'il y avait la boutique Sex, créée par Malcolm McLaren, le manager des Sex Pistols, et Vivienne Westwood. Et puis surtout, ils suivaient les Sex Pistols partout où ils se produisaient, et en général, ils cherchaient la bagarre et ils la trouvaient. À présent, un titre assez obscur d'un groupe totalement oublié, aux trois quarts féminins, comme Elastica. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est qu'avant, il y a eu une chanson de These Animal Men, c'est un groupe de Brighton en 1994, et la chanson s'appelait This is the Sound of the Youth, et je l'ai mis parce que je trouvais que c'était une sorte de résurgence de cet état d'esprit punk un peu froid et métallique, voilà, presque 20 ans après. Voilà, donc je reprends ce que je vous racontais. Ce groupe aux trois quarts féminin qui s'appelait donc Kenickie. Il venait de Sunderland, hein, c'est pas loin de Newcastle, hein, au nord de la côte est de l'Angleterre. Et la chanteuse s'appelait Lauren Laverne. Et son groupe, je crois qu'il a fait une semaine la couverture du New Musical Express, qui était encore la bible hebdomadaire du rock britannique dans ces années-là. Et puis, il a très vite disparu. Alors, j'ai retrouvé cette chanson punk qui résonne un peu en écho au Your Generation de Generation X. Voilà, l'histoire, c'est simple. 20 ans après, une fille née en 1978 s'adresse à une vieille punk, hein, entre guillemets, bon, une femme de 40 ans, pour elle, elle est vieille, et elle lui dit « Et alors, punk, j'espère que t'es resté fidèle à toi-même », et elle précise « Si toutes tes copines sont des salopes, t'es vraiment punk, si ta vie est kitsch, t'es punk, et si tous tes tubes sont des bides, alors t'es vraiment punk ». Punk, hein, c'était Kenickie en 1997.
Hey, punker, my one wish is to be as punk as you when I grow up. The punkest ever do grow up. And if you hit or miss, you're a punker. You dance like this, you're a punker. I'm
Very Good Trip, Mishka Assayas sur France Inter.
Ton fric, mon chéri, moi je veux ton amour, je veux pas de ta voiture, je veux ton... Ah, c'est explicite ça, c'était la voix de la jeune anglaise Wendy James en 1988, hein, 22 ans à l'époque. Son groupe s'appelait Transvision Vamp, beaucoup l'ont oublié, même beaucoup ne le connaissent pas, ne le connaissaient même pas, mais je trouve à réécouter aujourd'hui cette chanson, ça a gardé une certaine fraîcheur. Wendy James, c'était une enfant adoptée qui avait grandi à Brighton, elle avait failli devenir la Madonna britannique, enfin c'est comme ça que certains la voyaient, ou avait en tout cas essayé de la vendre, mais sans doute qu'elle était peut-être plus fragile et plus vulnérable que ça. En tout cas, Transvision Vamp a anticipé le retour d'un certain style punk dans le rock de grande consommation britannique. Alors une dernière chose intéressante sur Wendy James, en 1993, elle a demandé à Elvis Costello, qu'elle admirait beaucoup, d'écrire un album entier pour elle. Eh bien, il a accepté. Il a écrit et enregistré pour elle en un week-end, je crois, les maquettes d'une douzaine de chansons pour l'album Now in the Time for Your Tears, une curiosité qui vaut le détour. Alors juste avant, vous avez entendu alors quelque chose qui remonte à 77, c'est Identity du groupe X-Ray Specs avec la chanteuse londonienne Polystyrene, hein, comme polystyrène, c'était pas son vrai nom bien sûr. C'était une chanteuse métisse dont le père était somalien et elle avait été vraiment une pionnière du punk au féminin à Londres avec Susie, de Susie and the Banshees dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis aussi Pauline Murray. du groupe Penetration qu'on a bien oublié aujourd'hui. Autre chose maintenant, mais même période hein, ancienne, je vous parlais hier du groupe californien Green Day, hein, qui à ses débuts s'est beaucoup inspiré du style de The Jam. Hein, The Jam, un groupe qui avait formé trois prolétaires originaires de Woking, une des banlieues les plus sinistres de Londres, hein, c'est vers l'ouest. On les considérait comme des punks, hein, The Jam, et pourtant ils portaient des complets noirs et des cravates ficelles. En fait, ils s'inspiraient, enfin sur le plan vestimentaire et musical aussi en partie, hein, beaucoup des Mods, hein, ces jeunes londoniens du milieu des années 60, toujours tirés à quatre épingles, hein, qui roulaient à scooter et qui juraient que par la musique noire américaine et ne toléraient dans le rock anglais que de rares exceptions, les Who en tête, mais surtout pas les Rolling Stones qui étaient leurs ennemis jurés. Voici la voix de Paul Weller, le chanteur de The Jam, âgé de 21 ans en 1978, dans A-Bomb in Wardour Street. Des images terrifiantes de violence à une bombe atomique en plein cœur de Londres, dans le quartier de Soho, une image symbolique pour décrire une bagarre entre jeunes de bandes rivales.
Oh,
Got the Time, un extrait du premier album de l'anglais Joe Jackson, paru en 1979. L'album s'appelait Look Sharp. Alors un musicien, Joe Jackson, que beaucoup ont alors comparé à Elvis Costello. Comme lui, il semblait très en colère contre toutes sortes de sujets, en particulier les femmes qui n'avaient pas voulu de lui. Et comme lui, c'était déjà un musicien extrêmement agile et bien plus connaisseur en musique que le premier punk venu. D'ailleurs, Joe Jackson venait d'un tout autre monde. Il avait été formé au jazz et au conservatoire. Il avait eu d'ailleurs par la suite une révélation en découvrant le reggae. Et astucieusement, à 24 ans, il s'était engouffré dans la brèche ouverte par le mouvement punk et la première New Wave. Alors maintenant, j'ai pas peur de le dire, voici le plus grand groupe punk et mélodieux apparu durant cette période historique dans les îles britanniques. Alors je dis îles britanniques parce que c'était pas anglais. Les Undertones venaient en fait du ghetto catholique de Londonderry en Irlande du Nord. Ils avaient l'air vraiment de venir de fait d'un autre monde. Ils avaient pas du tout de style vestimentaire comme ça flamboyant. C'était vraiment les gars du coin. Et pour leurs évocations fulgurantes des frustrations adolescentes et leurs hymnes mélodieux à la fois joyeux et déchirants, les Undertones, qui étaient caractérisés par l'étonnante voix chevrotante de leur chanteur Fergal Sharkey, étaient tout simplement les meilleurs. Get Over You, c'était en 1979.